Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Marlène Bordelot en remplacement de Jimmy Lajoie-Boucher. Voici votre bulletin d'information. C'est aujourd'hui que débute le grand marché de Noël et ce jusqu'au 24 décembre. 200 entreprises agroalimentaires ainsi que des artisans et artistes y sont attendus. Ce marché proposera art de la table, décoration, présents 100% locaux, divertissement et tout ce qu'il faut pour préparer vos festins des fêtes. Une programmation mettant en valeur les produits et savoir-faire locaux est également présentée. Jusqu'à ce dimanche, entre autres, ce seront les vins et spiritueux québécois qui seront à l'honneur. Un marché des microbrasseries ainsi que des ateliers de poterie se tiendront également au cours du mois de décembre. Le tout se déroule au Grand Marché de Québec de 9h à 18h en semaine et de 9h à 17h la fin de semaine. Le Grand Marché est situé au 250 Boulevard Amel dans le quartier Lairet. L'entrée est gratuite. Bien que les plus de 420 000 membres du Front commun soient de retour au travail aujourd'hui, plusieurs établissements scolaires de la région de Québec demeurent fermés. En effet, la Fédération autonome de l'enseignement s'était prononcée pour une grève générale illimitée débutant hier, le 23 novembre. Les écoles du Centre de services scolaires de la Capitale et du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries demeurent donc fermées jusqu'à nouvel ordre. Lors de leur assemblée générale tenue mercredi, les chargés de cours de l'Université Laval se sont dotés d'un mandat de 10 jours de grève à déclencher au moment jugé opportun, dans une proportion de 93%. Sans contrat de travail depuis décembre dernier, les chargés de cours veulent améliorer, entre autres, leurs conditions salariales. Les méthodes d'attribution des tâches d'enseignement causent également problème. Le syndicat des chargés de cours de l'Université Laval, affilié à la CSN, représente 1 700 membres. À compter de ce soir, les bénévoles de l'Opération Nez Rouge prendront les routes d'assaut en offrant une option supplémentaire pour un retour sécuritaire à la maison après une soirée festive. Il s'agit d'un service de raccompagnement où deux bénévoles vous ramènent à la maison avec votre véhicule. Le service est offert de 20h jusqu'à 3h le matin. Pour la région de Québec et Lévis, appelez au 418-380-5500. 418-380-5500. Si vous aimeriez être bénévole pour cette bonne cause, c'est toujours possible. Visitez le opérationnezrouge.com pour les détails. Il s'agit de la 40e édition du service de raccompagnement qui se déroulera jusqu'au 31 décembre inclusivement. C'était votre bulletin d'information sur CKIA 88.3, rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local.
Toute simplicité. La simplicité et la nudité même de la vie de l'homme dans les âges primitifs comportait du moins cet avantage qu'elle lui permettait de demeurer un simple résident de passage au sein de la nature. Sitôt rassasié de nourriture et de sommeil, cet homme est en mesure d'envisager la suite de son périple. Il campait en ce monde, pourrait-on dire. Et quand il n'était pas occupé à suivre le cours des vallées, c'est qu'il l'était à traverser des plaines ou gravir des sommets. Puis, patatras, les hommes sont devenus les outils de leurs outils. Celui qui cueillait en toute indépendance des fruits, chaque fois qu'il avait faim, est devenu fermier. Celui qui trouvait abri sous les branchages d'un arbre est devenu propriétaire. Nous ne campons plus la nuit venue. Nous nous sommes fixés sur terre et nous avons oublié le ciel. Avant de pouvoir orner nos maisons de beaux objets, nous devons en dénuder les murs et nous devons dénuder nos vies, puis poser comme fondation une belle économie domestique et une belle vie. Mais le goût des choses belles se cultive plus adéquatement au grand air, là où n'est nulle maison, nul maître de maison. Mais les besoins les plus pressants sont-ils satisfaits de nos jours? Lorsque j'envisage d'acquérir une de nos luxueuses demeures, je suis vite rebuté, car la région n'est, pour ainsi dire, toujours pas adaptée à la culture humaine, et nous continuons à vivre dans l'obligation de couper notre pain spirituel en tranches beaucoup plus fines que les tranches de pain et de froment que coupaient nos ancêtres. Bien que nous ne soyons pas aujourd'hui dégénérés au point de ne plus pouvoir éventuellement vivre dans une grotte ou un wigwam et nous vêtir de peau de bête, il est certainement préférable d'accepter les avantages, quel que soit le prix auquel ils furent acquis, que l'ingéniosité et l'industrie humaine ont à nous offrir. Dans notre région, il est plus aisé et meilleur marché de se procurer des planches et des bardeaux, de la chaux et des briques que des grottes convenables ou de longs rondins entiers ou de l'écorce en quantité suffisante ou même de l'argile et des pierres plates. Je parle de ce sujet en connaissance de cause car je me suis frotté aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. Si nous étions un tout petit peu plus avisés, nous pourrions utiliser ces matériaux de manière à devenir plus riches que les plus riches peuvent l'être de nos jours et faire de notre civilisation une vraie bénédiction. L'homme civilisé est un sauvage doué de plus d'expérience et de plus de sagesse.
Une grande joie de marcher avec vous, Henry. Je me sens empressée de vous dire ma confiance.
Je remplace monsieur si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat Providence.
J'aime veiller sur la maison, les enfants et les fleurs. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive.
Auprès de moi, je vous sais craintif.
L'amitié supporte les absences de l'âme pensive. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire la Messie.
sa trace, écrire l'âme est si vaste, il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri.
Allons à la découverte de soi et de l'être.
Je suis peu d'estime à mon égard. Dans la nuit noire,
Emerson vous appelle l'arpenteur des tempêtes.
Je ne mène pas une vie tranquille de désespoir. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire.
Bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on a notre invité régulier, Jacques Sénécal, notre collaborateur régulier. Et on va discuter ensemble de l'idée de la pauvreté. Pauvreté, simplicité volontaire, il y a un lien entre les deux. Et on va discuter de ça aujourd'hui. Avant ça, quelques annonces, quelques lectures. Aujourd'hui, c'est... pour nous, c'est la journée sans achat. C'est le vendredi fou, le Black Friday, qui est une espèce d'orgie de consommation. Et nous, on vous propose d'économiser 100% de la facture en ne consommant pas du tout aujourd'hui. Ensuite de ça, juste un petit rappel, je suis retourné voir le documentaire dont je vous parlais la semaine dernière, L'océan vu du cœur. Et c'est vraiment un beau document, un beau film et qui est aussi un peu le testament, comme je disais, là, de militant écologiste du Père Yves. C'est probablement une de ses dernières entrevues qu'on voit. Là, on voit qu'il est affaibli, mais en tout cas, il nous livre un beau message. Et puis, c'est très complet. Il y a beaucoup d'informations. Même après deux fois... je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai pas pu noter. Il y a trop de choses dans ce documentaire-là. En tout cas, je vous le recommande. Il est toujours en salle, je crois que jusqu'à la semaine prochaine, en tout cas, tout au moins. Donc, voilà, il est dans plusieurs cinémas à Québec présentement. Puis aussi, pour ceux qui s'intéressent, jeudi prochain, au centre Frédéric Bach, où sont situés les Amis de la Terre sur la rue Salaberry. On aura un sac de discussion sur le thème des modes de vie alternatifs, plus précisément sur les cohabitats. Et on aura des gens du cohabitat de Neuville qui vont venir nous parler de leur expérience et comment ils ont créé leur projet, l'historique du projet. Puis... ça va être aussi un moment de discussion parce que les cercles de discussion, c'est des événements qui sont participatifs. Alors, si vous voulez venir participer à une discussion sur les cohabitats, c'est jeudi prochain, 19h, au Centre Frédéric Bach. Dans mes lectures, j'ai le devoir de la semaine dernière. En fait, c'est le devoir de la fin de semaine dernière. Il y a un cahier spécial sur le nouveau État du Québec 2024 qui vient d'arriver dans les librairies. Et il était de la démocratie, réenchanter notre démocratie. On voit là avec l'arrivée de beaucoup de gouvernements d'extrême droite un peu partout dans le monde. Je pense qu'il faut réfléchir sur la démocratie parce que, bon, c'est toujours la démocratie, c'est un projet qui est toujours en évolution. Et on n'a pas une démocratie qui est parfaite, mais certainement, si on la perdait, on perdrait beaucoup. Alors, c'est un document à lire, l'État du Québec 2024 sur la démocratie. Il y avait aussi dans le Devoir de samedi dernier une chronique, la chronique de Louis Cornelier, qui parle de simplicité volontaire. Alors, je vous lis quelques extraits. Alors, il dit « Le bonheur m'intéresse. Je lis donc tout ce que je trouve de sérieux sur la question. C'est le cas de « Qu'est-ce qu'une vie heureuse? » Édition de l'Homme, 492 pages. Une solide étude du psychiatre Robert Waldinger et du psychologue Mark Schultz, tous deux de l'Université Harvard. Le livre, comme plusieurs autres, dans le genre est trop long, il en arrive néanmoins à deux vérités générales qui méritent d'être dites. Plus que n'importe quoi d'autre, ce sont les relations humaines de qualité qui rendent heureux et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, peu importe nos conditions sociales. C'est ce que je me dis en effet. Un peu plus loin, il parle d'Albert Einstein. En 1922, lors d'une tournée de conférences au Japon, un coursier lui remet une lettre. En guise de remerciement, le scientifique donne au jeune homme une note écrite sur une feuille portant le logo de l'hôtel où il loge, retrouvé en 2017. Que dit-elle? Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche de succès qui implique une agitation permanente. Un peu plus loin dans l'article, il nous dit « Dans l'actualité, en février 2004, l'économiste Pierre Fortin réfute brillamment l'idée selon laquelle l'argent fait le bonheur. Sa thèse se fonde sur celle des philosophes de l'Antiquité qui affirmaient qu'une fois qu'on a atteint un confort matériel raisonnable, le bonheur se trouve ailleurs, notamment dans la vie de l'esprit, la pratique du bien et l'harmonie des rapports sociaux. Fortin cite une enquête mondiale réalisée par l'économiste canadien John Eliwell auprès de 88 000 personnes de 46 pays. Sa conclusion est la même que celle des philosophes dans les pays pauvres. Une augmentation de la richesse contribue au bonheur en soulageant la misère. Dans les pays riches, cet effet disparaît et le bonheur est plutôt lié à une bonne santé, à un emploi et à une vie de famille stable, à la foi en Dieu, et oui, à l'engagement dans la communauté et au fait de vivre dans une société libre. C'est fort, même d'un point de vue économique, l'argent ne fait pas le bonheur. Cherchez ailleurs. C'est le message qu'on répète continuellement à notre émission, en toute simplicité. Mais c'est ça, c'était dans le Devoir de la semaine dernière. Puis pour terminer ma petite recension, je vous invite à lire la chronique de José Blanchette aujourd'hui dans le Devoir. Et elle parle de deux sujets, la mort de Carl Tremblay, les cow-boys fringants. Elle dit « Pleurer les prophètes. Je me réveille rarement en pleurant et en écoutant une toune en boucle, un lendemain de deuil national. Ainsi meurent les prophètes en portant avec eux un peu de notre vaillance et de leurs entourloupes d'amour. Le charisme a un prix. Nous nous souvenons exactement du moment, du lieu, comme pour John Lennon ou René Lévesque, une part de nous s'éteint aussi. Et la peine est tatouée dans notre mémoire, une lézarde au cœur avec une trame musicale. » Puis, ben là, c'est, Je lirai pas la chronique au complet, mais elle parle aussi dans l'article d'une église. Elle dit, j'ai découvert jeudi dernier, grâce à François Guillet, un gars qui tripe sur les lieux de culte, et il consacrait bien les fins de semaine, la sublime et très irlandaise basilique Saint-Pierre, en plein centre-ville. C'est à Montréal. Rien à voir avec sa voisine, la cathédrale Marie-Reine du Monde, plus froide, plus austère, et une reproduction de Saint-Pierre de Rome. Saint-Patrick, un peu en retrait du boulevard René-Lévesque, est l'endroit idéal pour aller pleurer ta vie sous le regard inébranlable des immenses colonnes de pin recouvertes de marbre rose. C'est gratuit et désert la semaine en plus. Alors, elle nous raconte qu'elle est allée pleurer sa vie suite au départ de Cal Tremblay, des Cowboys fringants. Alors, justement, petite pause musicale. Après ça, on arrive avec Jacques Sénécal, une petite pièce musicale des Cowboys fringants.
La légèreté quitte un matin en sautant dans le premier train et part sans même nous envoyer la main. Lorsque l'on arrive sur le quai pour tenter de la rattraper, on sait trop bien que le glas sonne. Comme il faut aller quelque part, on regarde l'heure des départs. Chaos et le bruit de la gare. Et on se retrouve sans qu'on comprenne à marcher avec plus de peine sous le poids de valises un peu plus pleines.
C'était Cowboy Fringant, le train de vie. Désolé pour le petit ennui technique. C'est comme on a dit, la simplicité volontaire, c'est aussi accepter qu'on n'est pas parfait, c'est l'imperfection. Alors, finalement, éventuellement, je vais arriver à moins faire d'erreurs techniques. Alors, Jacques Sénécal.
Oui, je suis là.
Alors, c'est ça, notre thème aujourd'hui, c'est la pauvreté. Ça fait que, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Bien, la pauvreté, c'est très complexe. Comme tu le disais au tout début, c'est beaucoup relié à des modes de vie. Alors, je vais quand même me fier à des sociologues puis à des personnes crédibles là, qui ont pensé, qui ont réfléchi sur la pauvreté. D'avoir une définition simple, là, la plus simple possible, malgré qu'il existe plusieurs définitions sur la pauvreté, on s'entend pas tout le temps. Il n'y a pas de consensus universel. Mais la définition que j'ai trouvée la plus simple et la plus vraie, pour ainsi dire, c'est la suivante. La pauvreté désigne dans une société donnée le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus favorisés. Cela se traduit notamment par des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, et aussi par une stigmatisation de la part des personnes plus riches. Alors, effectivement, il y a toujours un rapport. Le terme pauvreté est toujours relatif à celui de richesse et fait ainsi davantage référence aux situations d'inégalité économique et politique entre les individus et entre les sociétés. Il existe plusieurs types de pauvreté, plusieurs sortes de pauvreté. On parle de pauvreté matérielle, on parle de pauvreté humaine, d'indigence, de misère. Moi, j'ai retenu, surtout dans mes recherches, une distinction qui nous vient de la sociologie française, qui nous dit à peu près ceci. Il existe trois formes de pauvreté. Alors, je vais tenter de vous les décrire le plus simplement possible, ces trois formes de pauvreté-là. Il y a la pauvreté intégrée, c'est-à-dire celle qui touche tout le pays, celle qui touche les pays économiquement en retard, là, selon nos critères. C'est une pauvreté, en fait, sans exclusion, parce que tout le monde est pauvre. La majorité vit dans la pauvreté. Par exemple, Haïti, le Burundi, le Sierra Leone, le Tchad. En fait, il y a beaucoup de pays pauvres où les gens pauvres ne sont pas stigmatisés justement parce qu'ils sont en majorité pauvres. C'est des pays où il y a encore de l'espoir, où il y a encore de la bonne solidarité humaine ou de la coopération. Ça, c'est ce qu'on appelle la pauvreté intégrée dans une masse d'individus. Ensuite, deuxièmement, il y a la pauvreté marginale. Ça, c'est la pauvreté d'une petite partie de la population au sein d'une société prospère. Ça nous concerne un peu plus, ça. Ces pauvres-là, cette pauvreté marginale, sont considérés comme des cas sociaux inadaptés au monde moderne et ils sont fortement stigmatisés. C'est ceux qui sont en chômage, c'est ceux qui fréquentent les banques alimentaires. En France, ceux qui fréquentent les restos du cœur. Alors, il y a des quartiers, par exemple, à Montréal, le quartier Hochelaga-Maisonneuve est considéré un peu comme étant un quartier pauvre. Anciennement, dans les années 60, on disait que Saint-Henri était le quartier des pauvres. Ça, c'est ce qu'on appelle une pauvreté marginale. Et enfin, troisièmement, la pire, dans le fond, à mon sens, c'est la pauvreté disqualifiante qui touche les sociétés très riches, les sociétés post-industrielles. Les pauvres sont considérés comme des déchus, des personnes qui sont en pleine déchéance. Ils sont complètement exclus. Eux vivent vraiment la misère, là, comme les déchus, comme des décès, comme des déchets de la société, des incapables de se rebâtir. Par exemple, à San Francisco, présentement, il y a des rues entières qui sont devenues des stationnements de camping-cars. Des parcs entiers sont devenus des terrains de camping d'itinérants. En France, on a aussi le cas des cités en banlieue des grandes villes. Alors, en ce qui concerne cette misère, en ce qui concerne cette pauvreté disqualifiante, il y a du désespoir, il n'y a plus d'espoir, là. Alors, on voit donc par ces trois formes, ces trois formes de pauvreté-là, qu'il y a une sorte de croissance, une sorte de dégradation, là. Dans les pays qui sont complètement pauvres, la misère humaine est moins palpable, alors que dans les pays riches, où il y a des pauvres qui sont exclus, qui sont déchus, qui sont stigmatisés par la société, là, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de désespoir. Évidemment, ces différentes formes de pauvreté-là sont appréciées d'une manière bien divergente. Il y a des formes diverses d'interpréter. Par exemple, la gauche en général, ce qu'on appelle la gauche, ceux qui sont interventionnistes étatiques, ont tendance à voir la pauvreté en croissance. Alors que la droite, les libéraux, ont tendance à trouver que la pauvreté est plutôt en régression. Ou encore, la gauche pense que la pauvreté résulte d'un manque d'intervention des pouvoirs publics. Alors que la droite, elle estime que la pauvreté repose sur des responsabilités individuelles et qu'il faut avoir recours à la charité. Alors, voyez-vous, de toutes ces distinctions, on remarque surtout qu'il y a des préjugés puis une marginalisation politique des pauvres. Le phénomène est universel, d'ailleurs, dans tous les pays du monde. On a tendance à considérer les pauvres comme des paresseux, des incompétents, des gens qui se complaisent dans leur situation. On va même jusqu'à dire que ce sont des ivrognes, des fraudeurs, des parasites quand ils reçoivent une aide de l'État. Les préjugés contre les pauvres, en fait, tendent parfois à remettre en question les droits même de ces personnes-là avec des affirmations telles que « ils font des enfants pour toucher des prestations sociales ». Ils ne payent pas d'impôts, donc ils ne doivent pas voter, ainsi de suite. Bref, il y a énormément de préjugés et contre les pauvres en général, et ils sont de toute façon marginalisés politiquement. Alors, ces préjugés sont véhiculés partout, et il demeure difficile, très difficile pour les pauvres d'avoir une reconnaissance sociale et une reconnaissance politique constructive, là, ça va de soi. Alors, là-dessus, je pourrais te demander, est-ce que je continue, Jacques, ou est-ce que tu as quelque chose à dire?
On pourrait prendre une pause musicale, là, mais je veux juste...
Mais il y a beaucoup aussi de je dois dire ça, il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup d'analyses faites sur le taux, l'augmentation ou la régression des pauvres. Moi, j'ai pris les chiffres du programme des Nations Unies pour le développement. Alors, on dit qu'il y a 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, qui vivent avec moins de 2 $ par jour. Il y a près de 1 milliard de personnes adultes qui sont analphabètes, dont les deux tiers sont des femmes. Chaque jour, 30 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies qui auraient pu être évitées. Près de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à de l'eau salubre. Alors, c'est des chiffres comme ça que je vous donne en pleine face, là, qui sont difficiles à prendre. À toutes les 4 secondes sur la Terre, il y a un enfant qui meurt de faim. Enfin, tout ça pour te dire que quand on entre dans le domaine de la pauvreté, on entre dans le domaine qui est un peu désespérant.
Moi, ce que j'aimerais dire là-dessus, par contre, pour renchérir avec le texte de Louis Cornelier là, que je lisais tantôt, c'est que moi, j'ai toujours parlé de deux sortes de pauvreté. La pauvreté absolue, qui est celle que tu décris, c'est qu'il y a des gens qui ne réalisent pas leurs besoins essentiels. Se nourrir, se loger, se vêtir, avoir le minimum. Mais au-delà d'un certain seuil, quand les besoins sont rencontrés, la pauvreté, elle n'est plus absolue, elle devient relative. On est pauvre par rapport à d'autres. C'est difficile, c'est pas toujours facile, la pauvreté relative, mais c'est différent de la pauvreté absolue. Puis c'est un peu là que la simplicité volontaire arrive, c'est qu'en simplicité volontaire, on dit une fois que tu as tes besoins de base, puis un peu de confort, c'est d'autres, il y a d'autres pauvretés qui ne sont pas identifiées qu'il faut combler. Puis c'est ça que l'article de Cornélie dit, c'est que, par exemple, il y a un célèbre sociologue qui s'appelle Putnam qui a dit que les sociétés modernes isolent les gens. Il y a un capital, il appelle ça le capital social, c'est-à-dire nos relations, nos liens s'étiolent, puis il y a beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Donc, c'est cette pauvreté-là qu'il faut combler au lieu de continuer à amasser d'autres richesses, travailler plus fort. Fait que ça, c'est un. Puis il y a aussi une autre pauvreté qui n'est pas identifiée dans notre société, c'est la pauvreté en temps. Alors, tu as des gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui travaillent tellement qu'ils sont en burn-out ou ils vivent pas vraiment. Pour revenir au philosophe, ce que Thoreau disait, c'est que le philosophe, lui, il vit dans le moment présent et puis il vit en appréciant le ciel. Alors, c'était deux. Je voulais faire cette intervention-là pour un peu là, distinguer la pauvreté que tu décris, qui est la pauvreté absolue, qui, oui, il faut. On en a des gens qui n'arrivent pas à combler leurs besoins là, qui ont essentiels. Pour parler de simplicité volontaire, c'est à partir du moment où on a un minimum, là, on a un certain confort et une certaine aisance matérielle. Mais là-dessus, on va arrêter là. On va faire une petite pause musicale. Et puis, après ça, on va poursuivre avec toi, Jacques.
D'accord.
J'ai marché sur la terre ondine, entendu parler les gens de la mine, qui souffraient au ventre et au cœur de ne pas profiter de leur labeur. De plus en plus, les gens d'ici qui se croient mieux dans leur pays ont de moins en moins ce qu'il leur faut. L'essentiel commence à faire défaut. Marché sur la terre ondine, entendu
gens de la mine qui souffraient au ventre et au cœur de ne pas profiter de leur labeur.
Bon, on va poursuivre. Un autre pépin. C'est aidé à un problème. Alors, c'était Jean-Marc Aurel. Malheureusement, on n'a pas pu se rendre jusqu'au bout de la pièce, qui était le même rouage de son album, Une petite pause. Alors, oui, Jacques.
Oui, je suis là.
C'est ça, je voulais faire la distinction dans Simplicité volontaire. C'est évident qu'on ne peut pas parler de simplicité volontaire quand on parle de pauvreté ou de la vraie pauvreté, de la misère. Là.
Non, c'est ça. Il y a bien des distinctions qu'on peut faire, bien entendu. J'en ai donné quelques-unes tout à l'heure, des sociologues français, mais dans le passé même, on faisait la distinction entre la pauvreté et l'indigence. Il y avait même une pauvreté qui était choisie librement. Il y a des ordres religieux qui choisissaient la pauvreté comme libre choix. Pour eux autres, la liberté, la pauvreté, c'était une manière de racheter leur péché. Et il faut dire qu'à cette époque-là, au Moyen Âge, c'est dans la mentalité médiévale, c'est Dieu qui décidait du sort de chacun, puis qui. Et il était donc lui-même Dieu, l'auteur de cette inégalité divine. Alors, dans cette pensée, donc, l'homme doit accepter avec humilité sa condition, puisque ce comportement serait alors garant du rachat de ses péchés, du salut de son âme. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de distinctions à faire, mais quand est arrivé le capitalisme, avec la Renaissance, mais on s'est rendu compte que la pauvreté, dans le fond, s'aggravait avec les conditions de vie, avec justement la venue de nouvelles classes, la bourgeoisie notamment, qui n'était pas désignée comme l'aristocratie l'était par Dieu lui-même. On devenait riche par nos propres forces, par notre propre volonté, notre propre courage. Alors que ceux qui étaient pauvres étaient considérés comme des personnes, justement, involontaires, sans courage. Alors, il y a eu donc une sorte de stigmatisation beaucoup plus forte quand est arrivé le capitalisme et qui s'est développé jusqu'à nos jours. Alors, aujourd'hui, justement, l'État-providence assure la protection contre la pauvreté puis l'exclusion sociale autant que possible. Les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, ce qu'on appelle l'OCDE, est invité à tous les pays, en fait, il y a près de 40 pays qui sont dans l'OCDE, sont invités à rédiger et à mettre en œuvre des documents de stratégie pour réduire la pauvreté. Par exemple, pour les enfants, ben on s'organise pour que les enfants aient des études primaires gratuites. On s'organise pour qu'il y ait des allocations familiales. On interdit même le travail trop dur aux enfants à partir d'un âge donné. Alors qu'au 19e siècle, les enfants travaillaient. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus dans nos pays riches, dans nos pays qui font partie de l'OCDE. Alors, il y a même aujourd'hui des institutions pour les orphelins et pour les enfants abandonnés. Et plus récemment, pour on retire des enfants de leurs parents parce qu'ils sont jugés inaptes, ce qu'on appelle la DPJ. Bref, il y a plein de d'institutions qui s'occupent de réduire la pauvreté. Pour les adultes, par exemple, on va réglementer le salaire minimum. On va favoriser les institutions qualitatives et sociales. On va assurer la santé par des programmes d'assurance maladie. Alors donc, dans plusieurs pays, comme au Québec, par exemple, les politiques fiscales ont montré plus d'efficacité dans la réduction des inégalités que la lutte contre la pauvreté. Dans certains pays de l'OCDE, comme les États-Unis, par exemple, où il y a beaucoup moins d'égalité entre les riches et les pauvres, bien, les États-Unis produisent presque 15 % de la richesse mondiale, puis ils comprennent plus de 48, presque 50 millions de pauvres, soit un taux de 18 % qui font de ce pays le premier de l'OCDE, qui comporte le plus de pauvres au monde, mais en même temps le plus de milliardaires au monde. Alors on se rend compte, comme tu disais tantôt, de la pauvreté qui est très relative. Alors c'est des données qui sont peut-être un peu désespérantes, mais qu'il faut quand même les dire, les nommer. Il y a aussi les causes. On a fait beaucoup de recherches sur les principales causes de la difficulté de réduire la pauvreté, parce qu'on essaie de réduire la pauvreté. Puis on a de la difficulté dans tous les pays, dans tous les pays de bonne foi, dans tous les pays de l'OCDE, dans tous les pays qui s'organisent justement pour réduire la pauvreté. On y arrive difficilement. Certains pays y arrivent plus adéquatement, comme la Finlande, le Danemark, les pays du Nord, les pays scandinaves, arrivent à mieux réduire la pauvreté que d'autres. Mais il y a des causes principales. Quelles sont ces causes principales de la difficulté de réduire la pauvreté? Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, la première cause principale de la difficulté de réduire la pauvreté, c'est que, d'abord, il y a une croissance rapide de la population dans le monde. C'est pas vrai tout le temps dans les pays de l'OCDE. Il y a même des pays qui connaissent aujourd'hui une décroissance, mais de manière générale, la croissance de la population est rapide, puis elle a un impact négatif sur le développement économique et contribue globalement puis durablement à l'augmentation de la pauvreté. La deuxième cause, dans le fond, des difficultés à réduire la pauvreté, c'est beaucoup le manque de coopération. Le manque de coopération entre les pays, notre incapacité de coopérer. C'est vrai pour la pauvreté comme c'est vrai pour les changements climatiques. Alors, les changements, on fait des réunions pour les changements climatiques à chaque année, puis on s'entend sur des cibles, mais finalement, on n'arrive pas à agir convenablement pour les atteindre, ces cibles-là. Alors, c'est un peu la même chose concernant la pauvreté. On atteint des cibles, mais on n'arrive pas à les atteindre. Alors, il y a ici une réflexion à faire entre le manque de coopération entre les pays qu'on retrouve autant dans la réduction de la pauvreté que dans les luttes contre les changements climatiques. Dans les deux cas, il y a un manque de capacité de coopération. Finalement, la troisième principale cause de la difficulté de réduire la pauvreté, c'est le mode de vie même. On en parle, t'en parlais tout à l'heure là, quand tu parlais de simplicité volontaire. C'est le mode de vie même des citoyens consommateurs dans les pays riches qui ne change pas, qui suit la tendance de la croissance de la production, donc qui suivent la croissance de la consommation. Et c'est ce qui appauvrit la majorité et qui crée des inégalités. Chez les jeunes, chez les tout jeunes, notamment chez les 18-35 ans, il y a quatre raisons qui expliquent leur débâcle financière, qui sont tous reliées à leur mode de vie. D'abord, l'accès facile au crédit. Les occasions sont nombreuses, évidemment. Ensuite, le système de consommation en général, et aucun gouvernement ne veut en restreindre l'ampleur. Le système de consommation lui-même, avec sa publicité, par exemple, la publicité qui tourne autour du vendredi fou, c'est complètement une véritable orgie de conditionnement. Alors, ce système de consommation-là est une des causes de la pauvreté des jeunes, de la difficulté des jeunes à joindre les deux bouts. Ensuite, le manque d'éducation dû, justement, au goût d'avoir une paye rapide. Cela, ça exige, ça restreint leur possibilité de décrocher un emploi rémunérateur qui exige des diplômes spécialisés. Alors, les jeunes ont tendance à vouloir faire de l'argent vite, puis, dans ce sens-là, ils ratent leur possibilité d'avoir des bons diplômes. Et quatrièmement, les paiements virtuels. C'est rendu aujourd'hui que payer, c'est de plus en plus abstrait. C'est effectué d'une manière virtuelle, puis parfois juste en un seul clic, juste en un petit tour de rien, on paye. Donc, on paye sans réfléchir. Il y a un manque de réflexion ici là, qui est à l'origine des raisons qui expliquent les débâcles financières liées au mode de vie. Alors, toutes ces raisons-là, toutes ces principales causes de la difficulté de résoudre la pauvreté, si tu le remarques, sont toujours reliées à des principes de vie qui vont à l'encontre de la simplicité volontaire, qui mettent le mode de vie, un mode de vie de consommation qui génère justement des inégalités et de la pauvreté. Tu en as parlé tantôt à propos de l'article de Louis Cornelier. On en parle tout le temps quand on fait référence à toi. Les livres auxquels tu as fait allusion aujourd'hui le disent aussi à propos du bonheur. Ce qui compte, dans le fond, c'est pas tellement d'accumuler nos richesses, d'accumuler nos biens, c'est d'avoir des bonnes relations sociales, puis c'est d'avoir justement de l'amitié pour les gens qui sont autour de nous. Développer la coopération, développer l'entraide.
Jacques, oui. Je veux juste intervenir parce qu'on va prendre une dernière pause musicale. Là,
d'accord.
Après ça, on conclut. Puis, je voulais juste aussi dire, nous, comme aujourd'hui, c'est symbolique, là, c'est le vendredi fou, c'est que les gens cherchent le bonheur. Puis, l'erreur, c'est qu'on les convainc que c'est en achetant des choses qu'ils vont être heureux. C'est là puis là, les gens dépensent sans dette. Alors que, comme ancien psychologue, on dit, une fois que tu as ce qu'il faut, le bonheur, c'est ailleurs que dans le matériel. Et en tout cas, ça peut résumer l'idée de la simplicité volontaire. Développer des liens sociaux, s'impliquer dans la société, se donner du temps pour apprécier la vie. C'est ça, la simplicité volontaire. Fait que Jacques, on prend une dernière petite pause musicale, puis il va te rester environ 2-3 minutes pour conclure là, sur la pauvreté.
C'est bien d'accord.
on va. Il nous reste deux minutes, Jacques, pour qu'on conclue. Donc, c'était pour ceux qui s'intéressent, c'était Harp to Art, une harpiste qui s'appelle Giannetta Barry.
Bien, ce que j'ai à dire, c'est que la réduction de la pauvreté va se faire à la condition que les gens qui sont devenus des citoyens consommateurs de plus en plus effrénés changent leur mode de vie. Moi, je pense, tu le disais au début, puis je reviens toujours à ça, la façon la plus simple et la plus radicale aussi d'arriver à une société plus égalitaire et plus coopérative, c'est de faire en sorte que les individus consomment moins, puis se contentent de satisfaire leurs besoins naturels et nécessaires, puis qu'ils mettent de côté le luxe, le pouvoir, la gloriole et ainsi de suite. La simplicité volontaire, dans le fond, est peut-être la philosophie qui est la plus juste, la plus convenable pour arriver à réduire la pauvreté dans le monde.
Écoute, Jacques, on est rendu à la fin de l'émission, puis ta conclusion rejoint un peu ce que je parlais aussi tantôt, l'événement qui va avoir lieu jeudi prochain au Centre Frédéric Bach sur les modes de vie alternatifs, sur les changements de mode de vie. Et bon, c'est un exemple d'une possibilité là, de changer nos modes de vie avec les cohabitats. Alors, pour ceux qui s'intéressent, comme je disais, c'est jeudi prochain au Centre Frédéric Bach à 19h. Alors, Jacques, merci pour ta présentation, ton intervention.
Ça m'a fait plaisir.
Puis, on se revoit dans un... ça va être plutôt en janvier, là.
C'est ça. Ça va aller en 2024.
En 2024. Alors, joyeuses fêtes, puis à la prochaine.
À la prochaine, toi aussi.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Coupures budgétaires, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.
Le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination. Le droit à l'éducation. Le droit à la...
Si les droits humains ne sont pas défendus, ils risquent de disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça libère.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Marlène Bordelot en remplacement de Jimmy Lajoie-Boucher. Voici votre bulletin d'information. C'est aujourd'hui que débute le grand marché de Noël et ce jusqu'au 24 décembre. 200 entreprises agroalimentaires ainsi que des artisans et artistes y sont.